Bienvenue à ce balado réalisé par Corinne Delarousse-Bille, Juliette Gauvreau, Éléonore Dufresne et Vincent Agouès-Richard. Dans ce balado, nous nous intéresserons à Magog en tant que ville industrielle en transition. Entre passé, vestiges et requalification, une relation complexe lie habitants, habitantes et présence industrielle.
OK. Alors, mon nom est Serge Bellereau, je suis magogois d'origine et puis j'habite toujours à Magog. Mais depuis 2000, je travaille à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. On dit que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait à peu près 12 000 habitants à Magog. On pense qu'il y avait à peu près 2 500 personnes qui travaillaient dans le textile. Donc à peu près, si vous dépendiez directement de l'industrie, parce que vous travaillez là, évidemment, votre chèque de paye, c'était votre gagne-pain. Mais si vous êtes commerçant, à peu près sur toutes les coutures, vous avez besoin des chèques de paye des gens qui travaillent dans le textile. C'est eux autres votre raison d'être. Alors, le textile, c'était énorme.
Le passé industriel de Magog persiste encore dans les souvenirs des anciens, anciennes, travailleurs et travailleuses. C'est d'ailleurs le cas pour Serge, Fernand, Thérèse et Bruno.
Côté sentimental. J'ai travaillé là, puis j'ai connu des gens. Et il y a un côté aussi, je dirais, identitaire à Magog. J'ai vécu le passage d'une ville manufacturière. Donc, avec tout ce que ça implique, là, c'est pas juste, c'est une mentalité, travailler dans le textile. C'était une identité.
Quand ça revenait, on va dire, tu faisais le tour de ton set, on va dire, on appelait ça, tu avais 50 métiers. Ben là, tu faisais le tour, là. Tout est beau. Là. Quand j'étais assis sur le bord, là, il y avait des cotes d'outils, là, des arrangeurs. Là. Et puis, je m'assisais là-dessus. Puis là, tu regardais, là, tu relaxais un peu. Là, tu envoyais un peu. Tu repartais. Puis là, ben, tu faisais toujours ta run, par exemple. Tu voulais faire ton inspection aussi tous les jours. Pour ça. Ouais, le bruit que des navettes que tu avais qui se promenaient, là. Le métier, on va dire, le warp, serre, tu vois. Tu sais, ça allait comme ça, là. Puis la navette, elle se promenait comme ça. Une navette qui était longue même, là.
Bien, mon nom, c'est Bruno Boutin. J'ai travaillé, moi, de 1972 à 2005, au début chez Domion Textile, à la fin chez CS Brooks. Bien, c'était des beaux emplois au laboratoire, là. Tu sais, t'étais pas sur la production, là, puis c'était pas de la routine, c'était d'évaluer des nouveaux produits ou faire de la recherche ou des choses du genre, là. C'est pour ça que c'est pas toujours la même chose à tous les jours. Hein? Mais mon père en 50 cuts, là, c'était 12 heures par jour, là. C'était 6 jours par semaine, 12 heures par jour, là. C'était un autre genre de vie, là. Puis sur le côté du tissage, c'était le bruit qui était épouvantable. Quand tu as 300 métiers qui tissent en même temps, là, la plupart ont eu des problèmes de surdité.
Donc, il y avait cette histoire, je ne dirais pas jusqu'à dire d'amour et de haine, mais presque. C'est-à-dire qu'il y avait la perspective de dire, bien, j'ai gagné ma vie dans le textile. On était fiers de ça. Et ça a permis à des centaines de familles magogoises d'accéder à la classe moyenne. Ça, on l'oublie souvent.
Presque tous les parents, les pères, ça, c'était plus les pères en ce temps-là, travaillaient journalier au textile, là, beaucoup. C'était ça. Mais c'est des gens quand même qui avaient des salaires. Puis on dit que c'était pas riche, mais il y avait leur petite maison, puis... Donc, ils restaient en loyer, mais c'était des gens, là, ils manquaient pas de nourriture, ces gens-là, là, pas comme la pauvreté
non, regarde,
d'aujourd'hui, dans le bas de la ville. Là.
Fait qu'aujourd'hui, vers la fin des années 90, c'est plutôt un employé du textile, ça fait un bon salaire, puis ça a 4-5 semaines de vacances selon sa signature. C'est le syndicat, mais des grèves très dures. Très long. On s'est battu très fort pour avoir ces conditions-là. Ça a été un milieu assez difficile. Puis à Magog, bien, quand l'usine fermait, toute la communauté était asphyxiée. aussi financièrement.
Oh, ben c'est un déclin qui a été quand même assez lent, mais c'était là, comment je pourrais dire ça, c'est tout ce qui venait d'importation là, du Pakistan ou des choses qui pouvaient produire à des coûts moindres. Il reste qu'il y a des produits qu'on fabriquait qui étaient du haut de gamme, puis qu'on était ici, on faisait tout le denain du Canada pour faire les jeans, il était fait ici à Magog. Puis Domion Textile, pour des raisons économiques, a abandonné des lignes de production comme le Corps du Roi, tu sais, les pendements. C'est ça. C'était tout fait par Domion Textile. Il y avait plusieurs usines. Là. Moi, j'ai été travailler dans deux ou trois usines là, sporadiquement. Non, c'est des grandes bâtisses. Puis nous autres, on l'a vu fermer. Là. Je me rappelle, quand ça l'a fermé, nous autres, le laboratoire, on était ouvert encore, mais les départements fermaient. Puis il y avait un département, surtout, qui avait, je ne sais pas, 8 machines de finition. Puis là, tu passais le lundi, les fenêtres étaient ouvertes, t'entendais le vent sciller, là, il n'y a plus rien qui marchait, là, tu sais. T'avais encore la tasse de café qui était restée sur le corde de châssis, puis tu sais, c'est comme s'il était passé quelque chose, là, tu sais. Fait que, on a vu ça.
C'est le bas de la ville.
Parce que quand ça travaillait le textile, là, t'avais 3-4 épiceries là, sur la grande rue. Là, tu n'as plus, là.
Non, plus rien. Il y avait des magasins de vêtements.
Il y avait un cinéma en bas, là. J'allais là.
Non, il y avait une vie, là, quand même.
Bah, des gros impacts. Ben, là, quand ça a fermé, à la fin, il ne restait plus tant d'employés que ça. Puis, pendant ces années-là, il y a eu d'autres usines qui se sont implantées à Magog, des gens ont quitté, il y avait d'autres genres d'emplois, puis tu sais, c'était plus... Parce qu'au début, si on parle des début 1900, c'était ça. Tout le monde travaillait là, il y avait juste ça comme usine. Mais après ça, ben ça s'est diversifié, puis... Nous autres, on a vécu... Ben moi, j'ai pas vécu la fermeture, mais j'ai vécu le déclin, là.
L'usine existe, qu'on parle de leur disparition. Fait que les gens avaient appris à vivre avec ça un petit peu. Il n'en demeure pas moins que pour encore plusieurs centaines de Magogois, c'était leur gang-pain, c'était leur vie. Ils ont travaillé là toute leur vie et c'est le seul métier qu'ils ont pratiqué. Donc, l'incertitude, l'inquiétude de dire, bon, je perds ma job, il y a un montant qui arrivait là, pour la fermeture, tout ça, mais je fais quoi? Surtout que ça arrive en 2008, crise économique. Et pour d'autres, ben, qui étaient déjà rendus à 55 ans, 56 ans, 57 ans, ben, c'était l'occasion de dire « OK, merci, bonjour, moi je quitte, c'est fini, puis je ne travaillerai plus. » Mais je dirais que pour la plupart des gens, il a fallu qu'ils se retrouvent un emploi. Etc. Et certains vont arriver avec le recul, ça fait quoi, 10 ans, 12 ans, 13 ans, et nous dire « C'est la meilleure chose qui m'est arrivée. J'ai trouvé un emploi que j'aime, puis il est à temps. » Mais je ne voyais pas ça comme ça à l'époque, ben, c'était mon emploi, je travaillais là. Mais il était temps que ma vie change. D'autres vont dire, ça a été un choc, puis je m'en suis pas remis.
Ouais, ben moi, c'est Félix Samel. Je suis architecte qui travaille ici chez ADSP, à Magog, depuis 3 ans et demi à peu près. Parce que lui, dans le fond, ben, il vient de Magog. Puis sa famille, son père a travaillé toute sa vie ici, là, dans l'usine. Puis bon, lui, après ça, ben, l'usine a vécu son apogée, a fermé, il y a eu des fermetures, des crèves, machin. Puis après que tous ces bâtiments-là ici ont été désaffectés, ben lui, il a racheté juste cette petite portion-là, dans le fond. Puis il a reflippé tout ça, comme ce que vous voyez ici dans le fond. Puis on a fait des locaux quand même très cool qu'on peut s'approprier puis qu'on utilise. On est un bureau d'architecture ici, mais il y a un studio de yoga à côté, il y a des restaurants en bas, ça peut devenir tout plein de choses. Là, fait que ça, c'est cool. Ces bâtiments-là, à l'époque, ils devaient dégager du bruit, ils devaient dégager de l'énergie, genre, ils devaient avoir des ouvriers probablement qui étaient partout, qui couraient à gauche et à droite, ils devaient avoir vraiment de l'action. Là, c'est comme complètement l'inverse. Fait qu'il y a une espèce de calme quasiment un peu austère, là, associé à ça, je sais pas trop comment dire.
Aujourd'hui, si certains bâtiments de l'ancienne Dominium Textile ont déjà été requalifiés, d'autres sont toujours laissés à l'abandon en attente de la réalisation de projets futurs.
Il y a des choses, ben oui, qui ça revitalise, là, ça redonne vie. Ah
ouais,
là,
c'est
oui, parce que le restaurant, on est allé à la shop. Je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça, la shop. Et puis, on est allé à la Fondissimo. Je ne sais pas si c'est encore ça, là, parce que ça fait une petite seconde qu'on n'est pas allé. Fondissimo en arrière, là. Puis, oui, c'est bien, ça, je trouve que c'est de donner un autre visage, puis faire revivre, tu sais.
C'est juste partir de là, ouais. Que c'est le coton, on va dire, là. C'est ouais. Tout ça qui.
Parce que dans le coin de l'imprimerie, l'autre bout qui est l'imprimerie, mais le promoteur, on a vu, là, on voit qu'il avance, là, tu sais, il y a quelque chose d'un peu, là, sur ces planches à dessin, là. Puis ça va être, je pense, ça va être bien, qu'est-ce que c'est qu'il présente, là. Bien, c'est l'autre coin qu'on entend. Puis le pire, c'est l'autre coin, là. Puis c'est ça qui dort.
Ah, c'est super, ouais, vraiment. C'est un beau, je pense que c'est un bel environnement de travail, là. D'un, parce que ça a un caractère particulier, puis je pense qu'il y a quand même une. On sent qu'il y a déjà quelque chose qui s'est passé ici, autre que juste un bureau d'architecture. C'est sûr que pour bien le sentir, je pense que faut que tu puisses avoir vu ce qui s'est passé avant.
Si on peut développer une vision cohérente, et la vision cohérente va impliquer aussi, vous êtes passé devant les usines, de l'autre côté de la rue, on retrouve parmi les loyers les plus modiques de Magog. Bien ça aussi, il faut que ça soit intégré dans la vision globale. Puis je pense que la mairesse est très consciente de ça. Bien, il faut faire quelque chose qui respecte l'identité du secteur puis qui respecte la population qui habite là.
Regarde, là, il y a un magasin, là, voyons, on appelle ça une friperie, là, autrement dit, une sorte de
ça, ah, des hôtels
avant. Et puis ça. Là, ils voulaient changer de place, puis tout ça, puis peut-être donner une. Ben, réparer, mettre une façade. Mais là, la personne, ben, est allée contester, c'est sûr. Puis là, il garde là où elle est. Mais comme elle disait, la madame, moi ici, là, ma clientèle est ici, là. Si je m'en vais ailleurs, là, c'est ça.
T'sais, je pense qu'à un moment donné, il faut laisser faire le développement. Puis c'est correct qu'il y en ait des consultations citoyennes, c'est correct de demander son avis au plus grand nombre. Mais à un moment donné, si on est toujours en train de faire ça, il n'y en aura pas de projet. Puis en ce moment, c'est exactement ça qui se passe. Il y a tellement de discussions entre la ville, les citoyens, les ci, les ça, puis personne qui a de s'entendre. Puis au final, ça fait que les projets sont bloqués, ce qui est dommage.
Parmi les différentes visions, subsistent des vœux d'avenir que chacun et chacune entretient pour le futur des bâtiments.
Ben, je pense que ce projet-là, oui, là, c'est correct. Là, de rendre ça vivant. Là, je sais qu'il y a une partie encore industrie, parce qu'il y a une usine d'oreillers, puis ces choses-là. Un n'empêcherait pas l'autre. Là. Peut-être en mettant ça un petit peu plus beau, là.
Écoutez, moi, l'idéal, ce que je vois de ça, rapidement, là, c'est que ça soit utilisable pour le plus grand nombre de gens possible.
Mais l'autre, ils peuvent faire peut-être comme plus d'habitations pour les gens. Dans l'autre coin, ils peuvent peut-être faire des restaurants un peu plus... Mais là, c'est sûr qu'avec le décor d'en avant... Ils voudront pas, il n'y a pas personne qui va vouloir.
Là.
Moi, toutes les maisons, ça ne marche
pas.
C'est
pas des vieilles maisons dans le temps, aujourd'hui.
Ah, il voudrait avoir plein de choses. Tu sais, les citoyens, là, quand ils voient ça, ils veulent voir du logement, ils veulent voir des marchés publics, ils veulent voir des logements sociaux, ils veulent voir des espaces verts, des parcs, de l'agriculture urbaine. Des commerces. Tu sais, en fait, ici, là, c'est tellement un grand ensemble de bâtiments, c'est tellement grand que ça pourrait être un quartier en soi. Tu sais.
Un des espoirs, c'est évidemment qu'à l'intérieur de ça, on trouve une façon de valoriser le passé de l'industrie, là, du point de vue de l'historien. Donc, que ce soit des cadres aménagés à différents endroits, que ce soit des panneaux d'interprétation, pour rappeler aux gens ce que c'était, c'est évidemment souhaitable. Les plus ambitieux vont à un musée du textile, bon, ça, on verra. Je vous dirais que la vision qui a été développée jusqu'à date, elle est très enthousiasmante. Pour moi, là, de dire que dans 15-20 ans, les gens se promèneraient là en vélo, il y aurait même la piste cyclable passerait là, que les gens aient accès et que les gens se souviennent. Il ne faut pas vivre juste dans le passé.